Montpellier, sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 13h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour à tous. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'opposition régionale réclame de la transparence après un article du Monde sur un déplacement professionnel au Japon du président de région Laurent Wauquiez. Les socialistes et les écologistes s'interrogent en particulier sur l'organisation d'un dîner avec près de 150 chefs d'entreprise dans un restaurant étoilé de Tokyo. L'opposition demande que tous les éléments ayant trait à ce voyage soient rendus publics. De son côté, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises affirme que ce déplacement n'avait rien de confidentiel et qu'il était destiné à promouvoir les entreprises industrielles de la région. Un enfant en urgence absolue après un grave accident tôt ce matin à Paris. Un véhicule de tourisme était en train d'être escorté par la police quand un troisième véhicule les a percutés. Une policière dont le pronostic vital était engagé n'est plus en danger. Deux autres policiers sont en urgence relative et un homme a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite. L'aide américaine votée hier tuera encore plus d'Ukrainiens, avertit le Kremlin. La Chambre américaine des représentants a voté une enveloppe très attendue de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les États-Unis sont au rendez-vous de l'histoire, a salué de son côté le président américain Joe Biden. Le Sénat américain doit maintenant se prononcer sur cette aide. Emmanuel Macron célèbre le 80e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Célébrons ce trésor, votons, écrit le chef de l'État sur les réseaux sociaux. Par le droit de vote, chaque citoyenne et citoyen peut faire entendre sa voix et contribuer à façonner l'avenir du pays, affirme le président à moins de 2 mois des élections européennes. Le droit de vote des femmes est entré en vigueur le 21 avril 1944. C'était sur ordonnance du général de Gaulle. Le foot est la suite de la 30e journée de Ligue 1. À 15h, Lille, Strasbourg, Reims, Montpellier et Le Havre, Metz. À 17h05, Brest reçoit Monaco, avant Toulouse, Marseille à 19h et PSG, Lyon à 21h. Et puis il y aura aussi du rugby ce soir. Bordeaux-Bègles reçoit Clermont à 21h05 à l'occasion de la 21e journée de Top 14. Très bon dimanche à notre écoute.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu sais ce que c'est.
Faites-moi confiance, je suis un professionnel.
Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
Avivien, Avivienne, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'Éclectique. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de curiosités sonores, de créations radiophoniques, de sons surnaturels et de musiques oubliées. Voilà ce qu'est la ligne conductrice de notre émission que nous déclinerons aujourd'hui avec une magnifique rencontre avec Léa Weinstein. Elle vient de signer un roman passionnant, J'irai chercher Kafka. À la mi-temps de cette émission, nous nous intéresserons jusqu'à vendredi aux chansons qui rendent hommage à des villes d'Israël. Aujourd'hui, Tel Aviv, dans une version de 1963. Et puis, vous le savez, dans Éclectique, on aime bien l'esprit feuilleton radiophonique et nous entendrons aujourd'hui le premier épisode du roman La fin de Fantomas. Voilà les rendez-vous que je vous propose pour la prochaine demi-heure. Installez-vous tranquillement, attention à la marche et bouclez votre ceinture.
Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
Bélisère ? Bélisère, réveille-toi. Ouvre les yeux. Et dis-moi ce que tu vois.
Je vois des millions et des millions d'étoiles.
Et tu en déduis quoi ?
D'un point de vue astronomique, ça me dit qu'il y a des millions de galaxies et potentiellement des milliards de planètes. D'un point de vue astrologique, j'observe que Saturne fait partie du lion. D'un point de vue horaire, j'en déduis qu'il est approximativement 3h15. D'un point de vue météorologique, je pense que nous aurons une belle journée demain. Enfin, d'un point de vue théologique, je vois que Dieu est tout-puissant et que nous sommes bien petits, insignifiants face à l'univers. Et toi, Prudence, qu'est-ce que tu vois ?
Mon pauvre Bélisère, ce que tu es ballot. Moi, je vois qu'on nous a volé la tente.
La recommandation du jour.
On connaît bien sûr le procès, la métamorphose, mais il y a aussi le château, ses journaux et même l'histoire d'une petite souris prénommée Joséphine. Autant de textes que Kafka souhaitait voir détruire à sa mort. Dans son nouveau livre « J'irai chercher Kafka », enquête littéraire, Léa Weinstein nous raconte l'histoire d'un voyage sur les traces de ses manuscrits qui auraient dû être brûlés et qui ont été sauvés à plusieurs reprises, en passant notamment par Prague, Tel Aviv et une très longue saga judiciaire. Léa Weinstein.
Dans ce livre, j'avais envie donc de raconter cette enquête qui porte sur l'histoire des manuscrits, mais aussi de raconter ce que ça m'a fait, et donc d'essayer de remonter le plus loin possible et de raconter ce qui, je pense, est quelque chose que les lectrices et les lecteurs peuvent partager avec Kafka ou avec d'autres d'ailleurs, mais c'est comment certaines figures d'écrivains, d'auteurs, d'artistes peuvent habiter votre vie, même si vous les avez pas connus, mais la manière dont on peut lire une œuvre et dialoguer avec cette œuvre, ça m'intéressait d'essayer de le raconter aussi.
Et l'histoire de son rapport à Franz Kafka ne date pas d'hier.
Le livre commence par un espèce de prologue qui correspond à un souvenir d'enfance, plutôt petite enfance puisque c'est avant l'âge de mes 10 ans, c'est l'année de mes 9 ans. Et je me souviens que cet été-là, j'ai fait une série de cauchemars qui ont même provoqué une forme de somnambulisme comme peuvent avoir les enfants. Et que dans ce cauchemar, il y avait l'image d'un homme avec un chapeau qui avait un rire extrêmement cruel. Et plus tard, en y repensant, j'ai compris que ce visage ressemblait beaucoup à celui qui était sur une carte postale dans le bureau de mon père. Alors, quand j'ai 9 ans, je n'identifie pas ce visage, hein, évidemment, donc je ne sais pas qui est cet homme. Je sens qu'en effet, il a une importance centrale, comme ça. D'ailleurs, elle était posée au milieu de la bibliothèque, et la bibliothèque étant déjà elle-même l'endroit central pour mon père. Et mon père qui est plutôt du côté du silence et de la littérature, mais aussi du silence. Donc évidemment, les indices que j'avais pour essayer d'aller contre ce silence, ou en tout cas de comprendre, d'interpréter pourquoi ce silence de mon père, cet homme, donc Franz Kafka, devenait un indice. Alors d'abord, c'était un écrivain. Ensuite, c'était un écrivain juif, mais qui... Voilà, a eu à la fois un rapport à l'écriture et à la question du judaïsme extrêmement complexe. Donc, en effet, il y a quelque chose qui s'est tissé entre essayer de le comprendre lui et puis peut-être à travers lui essayer de comprendre le silence de mon père.
Avec son livre « J'irai chercher Kafka », Léa Weinstein s'interroge sur la portée du geste de Max Brod qui finalement n'exécute pas le testament de son ami Kafka.
Quand on tient finalement ces manuscrits de Kafka entre les mains, donc ce qui a été mon cas et ma chance puisque je suis allée à Jérusalem les voir, on a vraiment l'impression qu'il se produit quelque chose qui n'avait aucune chance de se produire, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de toucher ces papiers qui devaient être détruits. Alors d'abord, et en effet c'est vraiment le socle de l'histoire, d'abord ils auraient dû être détruits parce que c'est ce que leur auteur a demandé. Et parmi les manuscrits qu'on voit à Jérusalem, on voit d'ailleurs ce testament. Donc c'est vertigineux parce qu'on le lit nous disant qu'on n'a pas le droit de le lire. Donc il y a cette première destruction, trahison, voilà, qui en effet barre comme ça d'une espèce de croix la possibilité pour ces textes d'exister. Et pourtant, il y a ce premier sauvetage qui est décidé. Donc dans ce sur quoi je m'interroge, est-ce que cette décision de Max Brod est une trahison? Est-ce qu'au contraire, elle est une manière de fidélité encore plus haute au désir encore plus profond de son ami? Est-ce que c'est un pari sur la force littéraire d'une œuvre, puisque Max Brod a finalement entièrement construit l'œuvre de Kafka, il l'a entièrement façonnée, il nous l'a passée, il l'a faite publier, il l'a faite traduire, il en est voilà l'architecte.
Et si l'on connaît le rapport compliqué que Kafka entretenait avec le judaïsme et le sionisme, quel destin étrange que ces textes soient aujourd'hui patrimoine d'Israël.
Le fait que les manuscrits de Kafka reposent aujourd'hui à Jérusalem, est-ce que ça a un sens profond lié à son œuvre, ou est-ce que, au contraire, il s'agit d'une sorte d'appropriation politique de la part d'un État qui s'est mêlé d'une affaire d'héritage privé et qui a déclaré comme ça du jour au lendemain que ça lui appartenait. C'est très compliqué et moi je me suis vraiment j'ai retourné la question dans tous les sens et je pense que c'est assez indécidable finalement. Pourquoi ? Parce que ce rapport de Kafka au judaïsme et au sionisme, lui-même, il a quelque chose d'indécidable, de tellement complexe qu'il est difficile de trancher.
Une enquête littéraire passionnante, une écriture émouvante, J'irai chercher Kafka, le nouveau livre de Léa Weinstein, nous embarque de la première à la dernière page.
Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
Chaque jour de cette semaine, nous explorons des villes d'Israël en chanson. Commençons par Tel Aviv, une chanson datant de 1963 et chantée par l'artiste italien Mariano Marini. La chanson a été enregistrée sous le label français Vogue, puisque l'artiste transalpin a vécu dans nos contrées pendant 8 ans. Il a à cette époque-là un succès considérable et crée donc avec ce petit quintet cette chanson rendant hommage à ce qu'on appelle la ville blanche.
Shalom, shalom. Goodbye, goodbye. Au revoir. Arrivederci. T'ho incontrata, t'ho fermata qui a Tel Aviv. T'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Tienimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio. Ma t'ho un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Se ti bacio, ma tu un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Mai mentito, mai tradito, mai spezzato il cuore. E così finì il mio sogno a Tel Aviv. Se ti bacio, ma tu un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Mai mentito, mai tradito, mai spezzato il cuore. E così finì il mio sogno a Tel Aviv. E così finì il mio sogno a Tel Aviv.
Eclectic. Radio Aviva. Xavier Nataf.
Fantômas.
Vous dites ?
Je dis Fantômas.
Cela signifie quoi ?
Rien. Et tout.
Pourtant, qu'est-ce que c'est ?
Personne. Mais cependant, quelqu'un.
Enfin, que fait-il, ce quelqu'un ?
Il fait peur.
Le feuilleton de la semaine.
C'est l'heure de notre feuilleton de la semaine. Vous le savez, dans Éclectique, on aime bien l'esprit feuilleton radiophonique et nous vous dégotons régulièrement des archives, celles-là sorties de la radiodiffusion française. Tremblez, car Fantômas est de retour cette semaine dans notre émission. La fin de Fantômas, un roman de Pierre Soulvestre et Marcel Alain, paru le 20 septembre 1913 dans la collection Le Livre Populaire. Il a été adapté de multiples fois à la radio, dans cette version par exemple, où nous assistons à la rencontre entre le juge Bonnet et l'inspecteur Juve.
Inspecteur Juve ?
Oui, sergent ?
Le juge Bonnet demande à vous voir.
Faites-le entrer. Ce n'est pas tous les jours que le président du tribunal rend visite à la préfecture.
Ah, cher ami, cela faisait si longtemps, hein ?
Plusieurs mois, en effet.
Un limier tel que vous doit être bien occupé.
Oh, cette année judiciaire ne sera pas brillante pour la police. Peu d'affaires importantes ont été résolues.
Allons donc, inspecteur Juve, vous semblez vous plaindre.
Véritablement, il y a de quoi.
Votre bilan affirme le contraire. L'éclaircissement de l'affaire Beltham et la solution du meurtre de la marquise de Langrune.
Vous êtes très aimable, président, mais ce que vous affirmez n'est pas tout à fait exact. Je n'ai rien pu faire concernant Beltham.
Vous avez retrouvé le corps du lord disparu.
Sans doute.
Ce qui est déjà merveilleux. Et le cas de la marquise a été élucidé. Alors, que demander de plus, hein ?
Que justice soit faite.
Ah, mon bon Juve, vous êtes un idéaliste. Vous rêvez toujours de succès impressionnants. Mais que diable, votre renommée est loin de s'amoindrir.
Oh, je n'en suis que médiocrement flatté. Car la réputation de Fantômas ne cesse de grandir.
Parbleu, je vous soupçonne de voir en Fantômas votre bête noire.
Peut-être, monsieur le juge. Mais comment se fait-il que nous n'entendions plus parler de lui ? Que rien ne nous mette sur ses traces ?
Le criminel a failli être guillotiné. J'imagine mal Fantômas venir s'y frotter à nouveau.
Juge Bonnet, seriez-vous en train de plaisanter ?
Fantômas a bon dos, hein. D'un bout à l'autre du territoire, et même hors de nos frontières, dès qu'il se passe un fait mystérieux, on dit « c'est du Fantômas ». Tout de même, il ne faut pas exagérer.
Découvrir sa véritable identité, sans déguisement, sans cagoule ni postiche, voilà ce que nous n'avons jamais réussi.
Attendez, moi que je vous annonce. Viens avec la formation. Désolé, inspecteur.
Mon petit Jérôme.
Tiens, ben c'est vous, Fandor. Alors, qu'est-ce que vous devenez ?
Pas grand-chose.
Il y a des mois qu'on n'entend plus parler de vous. Toujours journaliste à la capitale ?
On peut le dire comme ça.
Oui, il est vrai que vous êtes le chroniqueur de Fantômas. Nul autre bandit n'a droit à vos articles. Vous êtes comme Juve qui en a fait sa marotte, hein, son dada.
Sur quoi êtes-vous, inspecteur ? Une affaire compliquée ?
Rien de la sorte.
Aucun nouveau mystère à éclaircir ?
Ah, mon petit Fandor, tu seras toujours le même.
Le plus grand policier de France est désœuvré.
Oh. Et voilà qui n'est pas banal. Du coup, j'ai peut-être quelque chose pour vous.
Dis toujours, ton journal est en général mieux informé que ses concurrents.
Est-ce que le nom de Ribonnard vous dit quelque chose ?
Attendez, laissez-moi réfléchir. Ribonnard, n'était-ce pas un cul-de-jatte ? Ancien commis des abattoirs de la rue des Morillons.
Monsieur le juge, vous êtes exact comme un casier judiciaire. C'est bien notre homme.
Bon, de la graine de prison, du bétail de bagne, de la chair à guillotine.
Vous l'avez compris avec ce générique, Éclectique, c'est bientôt Éclectique, fini. C'est bientôt
juste
fini.
Juste l'heure pour vous souhaiter
juste
un bon
après-midi,
moi.
De vous donner rendez-vous à 14h sur l'antenne de Radio Aviva et de vous souhaiter un excellent après-midi en compagnie des programmes de votre radio favorite. Mardi.
Aviva, bon week-end! Sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens, tous ces fenêtre. Dans la cuisine, c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987.
Aviva vous invite à un concert de jazz sensationnel. Artfell en trio international, ce mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, en entrée libre. Vous les avez adorés sur scène pour les 40 ans de Radio Aviva. Retrouvez-les pour une soirée magique de standards jazz populaires, de Cole Porter à Irving Berlin, en passant par Bud Flanagan. Un répertoire palpitant sorti de l'Anglo-American Songbook sera célébré. Artfell au piano, David Cross à la trompette, Eric Gilles à la guitare. Artfell Trio, mardi 23 avril à 20h15 au Gazette Café, 6 rue Leva, à Montpellier.
Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Arcelon Sandrine qui a accepté cette interview et nous la remercions. Bonjour Madame Arcelon, merci d'être parmi nous.
Bonjour, merci à vous de ce temps accordé.
Alors pour la Journée internationale des droits des femmes, nous en sommes en pleine période actuellement, après ce qui s'est voté à droite et à gauche, et vous organisez le relais solidaire du Montpellier Métropole ASPTT de Montpellier, un club très réputé, aussi bien en athlétisme, en volleyball, surtout volleyball qui a une grande histoire, mais bien d'autres disciplines. Madame Arcelon, pouvez-vous nous dire, alors, ce 10 mars 2024, au profit de l'inclusion d'enfants avec autisme, et ma foi, vous travaillez pour beaucoup, beaucoup de raisons sociales.
Alors, pour le dimanche, oui, donc nous allons faire un relais solidaire, donc, comme vous l'avez dit, au profit des enfants autistes. C'est une course de 12 km avec une formule flexible. On peut courir seul, en équipe, par équipe de 2, 3 ou 4, afin que chacun puisse participer en fonction de ses capacités. La marche est autorisée et l'objectif est de passer un moment convivial et de permettre à la section Solidarité Autisme de la SPTT de Montpellier d'accueillir le plus d'enfants possible durant ses activités sportives.
Alors donc, tout est organisé, si je ne m'abuse, au domaine de Grandmont, le 10 mars, à partir de 10h. Et l'engagement est vraiment dérisoire, 10 euros par participant.
Oui, oui, l'engagement est de 10 euros afin de permettre au plus grand nombre de participer et que ce ne soit pas un frein à venir passer ce moment avec nous. Ça se déroulera aussi de Gramont et c'est vrai que un coureur m'a posé la question la semaine dernière, savoir quel type de raquette il fallait mettre. Et en fait, c'est un terrain naturel. Donc,
alors, le lieu exact, si vous permettez, oui. Sandrine Dancelon, le lieu exact, parce que nous avons des installations diverses à Gramont, le rendez-vous se trouve où exactement?
Et ça se trouve sur le site de Tennis Padel que nous gérons à Gramont, pardon.
Tout sera fléché?
Oui, ça sera fléché, bien sûr. Oui. Ça sera fléché. C'est la 5e édition, donc on est rodé, que ce soit pour l'aide au stationnement, le fléchage pour accéder jusqu'au lieu. Donc le départ se fait sur les terrains de padel et de tennis. Et ensuite, nous allons longer pour pouvoir rejoindre le parcours de santé, pardon. Le parcours de santé derrière le centre équestre. On va longer les terrains du MHSC Faute également et faire une boucle. La boucle fait 3 km.
Alors 12 km au total, il y a individuel en 2, 3 ou 4 par équipe?
Oui, voilà, tout à fait. Comme ça, ceux qui veulent faire des performances en individuel le peuvent. Ceux qui souhaitent plutôt le faire de façon amicale, en relais, et ne courir ou marcher que 3 km, c'est totalement faisable.
Alors, vous nous cachez quelque chose, Madame Marcelon. Vous ne nous dites pas le parrain ou la marraine que vous avez choisi. Une grande internationale de football.
Oui, 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 nous avons la chance et l'honneur que Oda Lataf ait accepté d'être la marraine de notre course. C'est une femme exceptionnelle avec un très grand engagement humain et c'est vraiment...
palmarès élogieux.
Oui, 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 oui. Le plus grand nombre de sélections et de buts tirés, c'est vrai que c'est une grande, très, très grande sportive.
Alors dites-nous, c'est quelle édition cette course-là?
C'est la 5e édition. Nous avons réussi à maintenir les éditions durant le Covid où nous avons fait ça en relais virtuel. Et afin de garder le contact avec nos adhérents et les personnes amies au club. Et donc l'année dernière, nous avons repris la course sur, j'allais dire sur terre, la course en réel, tous ensemble. Et nous avons une grande, grande surprise avec le nombre de participants qui a doublé.
Mais on va remercier également, si vous le permettez, les partenaires, parce que vous avez quand même des partenaires de haut de gamme, la mairie et la métropole.
La mairie, la métropole, le MHSC Foot, le MHR, oui, nous avons la chance d'être soutenus, le Centre Ressources Autisme de Montpellier, également, qui est un grand soutien.
Ce qui m'étonne...
Chrono, qui est c'est notre grande nouveauté cette année, c'est que nous avons des dossards pucés et un speaker professionnel qui va... Donc, tout au long de la course, animer cet événement. Et...
Vous avez des bénévoles, bien évidemment, qu'il faut remercier, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose.
Effectivement, nous pouvons compter sur 70 bénévoles qui vont signaler la course, qui sont toujours présents à chaque fois que le président demande leur aide. Et c'est vrai que sans eux, la course ne pourrait pas avoir lieu.
Eh bien, nous, on vous remercie, Radio Aviva Sport. Maintenant, je vous avais une petite minute, tout très rapidement, si vous le permettez, afin de remercier en général tous ceux qui vous ont permis très rapidement.
Comme vous l'avez dit, nos grandes institutions, la mairie, la métropole, le MHSC Foot, le Centre Ressources Autisme de Montpellier, Endurance Chrono.
Eh bien, nous... Radio Aviva Sport, vous remerciez. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Sandrine. Je pensais que vous l'avez en mémoire. Et je vous remercie. À très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir.
Très bonne journée.
Merci également.
Yeah.
repères pour les sorties littéraires.
Chers amis, bonjour. Alors, toujours les dictionnaires amoureux du parfum. J'espère que vous n'êtes pas... que vous en attendez encore d'autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, je vous rassure, on n'en mettra pas trop. Alors, le dictionnaire amoureux du parfum, l'auteur, ou l'autrice, pardon, Elisabeth de Feydeau, on s'en doute, c'est une amoureuse, évidemment, des parfums, ou plutôt, on dira des fragrances, comme on se doit de le dire. Alors, c'est un mot, fragrance, qui se perd doucement, il est pourtant issu du latin, fragare, sentir, et signifie une senteur exquise, délicate, bref, un parfum. Et il nous faut de nouveau parler de Venise, car qui dit parfum dit épice. Or, la fortune de la Sérénissime, elle est issue de la route de l'Orient. Alors, de la période médiévale jusqu'au XVIe siècle, Venise, c'est la capitale du parfum via le monopole du commerce des épices. Le monde arabe, en fait, transite par la capitale des doges, du moins pour l'essentiel. Et en conséquence, vous vous en doutez, le premier traité européen de parfumerie est écrit à Venise en 1555 par un alchimiste, maître Alexis dit le Piémontais. Alors rappelons que le parfum ne se mettait pas que sur le corps et qu'on parfumait aussi les vêtements, les plats et que de ce fait, évidemment, l'intérêt que nous pouvions, et que nous avons encore évidemment pour le parfum est multiple. Il faudra donc attendre les progrès de la distillerie pour obtenir les huiles essentielles et l'entrée de l'alcool en parfumerie. Le parfum ne sera plus durable, on pourrait dire. Le parfum, il est associé au nom de personnalité, à la fois celle qui en assure la diffusion et celle qui en font la promotion. Qui ne connaît pas, par exemple, Balmain, Balenciaga, Dior, Chanel, Gaultier, Guerlain. Et croyez-moi, la liste est loin d'être complète, sans compter les artistes qui en assurent, évidemment, la publicité ou la promotion, hommes d'ailleurs comme femmes. Et pourtant, les parfumeurs n'ont pas toujours été en odeur de sainteté. Le parfumeur qui fait entrer le parfum dans l'ère de la modernité en est un témoignage poignant. Il s'agit de François Coty. Alors François Coty, 1874-1934, c'est un personnage qui est parti de rien. C'est un enfant trouvé, on dira. Et il est devenu millionnaire. Sauf qu'en fait, à la fin de sa vie, il finira ruiné, oublié de tous, et d'ailleurs honni par la plupart. C'était quelqu'un qui s'est révélé absolument dévoré d'ambition. Il désirait plus que tous le pouvoir et il fit, comme je vous l'ai dit, l'unanimité de tous contre lui. Voilà. Moralité, c'est plutôt rassurant d'ailleurs, le génie ne suffit pas. Alors, pour en parler de manière un petit peu plus exhaustive, il faut quand même lui reconnaître beaucoup de choses. Il avait notamment senti la discrète montée des couturiers et parfumeurs et il va racheter avec une frénésie incroyable et en mettant parfois une véritable pression toutes les nouvelles marques. Autant vous dire qu'il ne va pas se faire des amis, hein. En fait, c'est assez curieux parce qu'il aurait dû lire ou tirer la leçon d'un roman de Balzac, intitulé César Birotteau. C'est peut-être un roman méconnu ou moins bien connu, mais César Birotteau, grandeur et décadence d'un parfumeur a eu vraiment un succès considérable. Et c'est d'ailleurs à partir de l'écriture du Père Goriot, 1834, que Balzac se décide à relier entre ses romans pour former, comme vous le savez, la comédie humaine. Donc chaque fois qu'il entreprend l'écriture d'un roman, eh bien Honoré de Balzac commande un parfum spécifique qui contribue à le mettre dans l'ambiance. Alors, c'est pas un dandy Balzac d'ailleurs, comment dire, sa prestance, on va dire ça pour être gentil avec lui, lui permet pas tellement d'être un dandy. Donc en fait, quand il fait fabriquer un parfum, en fait, c'est pour se mettre dans une véritable ambiance. C'est-à-dire qu'on lui crée un parfum qui est lié à l'atmosphère qu'il veut trouver, par exemple, dans la maison du Père Goriot. Donc c'est très curieux, puisque c'est vraiment la recréation d'un mode social. Autrement dit, le parfum n'est pas du tout ce qu'on pense. Il serait plus, de ce point de vue-là, non pas une fragrance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais une odeur, allez, on va être plus gentil qu'une odeur, qui peut être indélicate, une senteur. Voilà, et concernant le roman César Birotteau, il faut aussi faire un rappel concernant Balzac, parce qu'il va commander son parfum à un très jeune parfumeur, Pierre Guerlain. C'est vous dire évidemment que Guerlain, ça ne date pas tout à fait d'aujourd'hui et qu'il y a une véritable dynastie des parfumeurs. Alors on retrouve dans ce roman tous les éléments qui correspondront justement curieusement à la déchéance de François Coty, ce qui est assez incroyable. Comme quoi, je vous le rappelle, il est essentiel de lire. Voilà, donc César Birotteau, eh bien, il montera très haut et il descendra évidemment très bas. Exactement ce qui se passera pour François Coty. Alors, les artistes qui sont sensibles d'une manière ou d'une autre aux effluves et autres senteurs sont très nombreux, et vous le savez, et en particulier au 19e siècle, pardon, le romantisme. Sans qu'il soit pour autant d'ailleurs romantique au sens strict, Charles Baudelaire semble trouver l'inspiration par le nez. Citation. « N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde, où je hume à longs traits le vin du souvenir ?» Eh bien, c'est la chevelure, vous l'avez reconnu, bien évidemment. Et on se souvient des fleurs du mal, le parfum, autre titre, le flacon, ou encore du spleen de Paris. Un hémisphère dans une chevelure. Bon, bref, vous voyez bien, il faut pas seulement ouvrir et déboucher les flacons, en tout cas pour le parfum, il faut aussi aller dans les librairies pour lire des livres qui vous ouvrent des horizons nouveaux. Alors, plus près de nous, le texte qui a été un véritable succès de librairie lors de sa publication en 1985, eh bien, c'est précisément « Le parfum » de Patrick Suskind. Et c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors là, je vous dis tout de suite qu'il ait créé un vrai regain dans la parfumerie. C'est sûrement important, par contre, faites-vous plaisir, lisez-le. Alors, il y a une petite perversité, quand même, hein, dans le parfum. C'est que c'est un meurtrier. Alors, bon, mais c'est vraiment un livre tout à fait remarquable. Je vous en dis pas plus, achetez-le, c'est en livre de poche, ça date de 85, mais bien évidemment, la majorité des gens qui nous entourent l'ont lu, et ils ont bien raison, mais ils peuvent le relire. Ils peuvent le relire. Alors, à signaler aussi, en matière d'ouvrages récents, le premier roman olfactif. Alors ça, c'est important, parce qu'il est récent, il est aux éditions J'ai lu, il n'est pas cité dans le dictionnaire Amoureux des parfums, bon, d'accord, on fait une petite entorse. Il s'agit, alors l'auteur, c'est une femme, l'autrice, donc, c'est Laure Margeron, et ça s'appelle « Les cinq parfums de notre histoire ». C'est un livre vraiment tout à fait magnifique. Une femme qui est devenue anosmique va retrouver petit à petit son environnement olfactif. La lecture du roman, elle est ponctuée au fil des chapitres par la libération de parfums essentiels. À vous de découvrir. Alors le problème qu'on peut avoir, par exemple, dans un couple, voyez-vous, c'est que vous pouvez avoir envie de lire le livre et d'ouvrir, évidemment, pour libérer les parfums, sauf que quand vous le passez à quelqu'un d'autre pour le lire, les parfums ont un peu disparu. Moi, je vous conseille d'en acheter 3 ou 4, vous voyez, comme ça. Oui, bon, enfin, on fait ce qu'on peut, hein, pour vendre les livres. Alors, il est évidemment aussi difficile d'évoquer les parfums sans parler des flacons, qui ont largement contribué à son histoire et favorisé les collections. Un nom s'impose dans ce domaine, et vous le savez, c'est celui de Baccarat. Il s'agit d'une évolution de cette estampille de prestige. Les flacons pour parfumeurs sont donc issus directement des carafes à liqueur, et les maîtres verriers vont rivaliser pour proposer des flacons originaux et toujours extrêmement élégants. Alors, je termine, pas encore, sur une petite notion qui est assez amusante, moi j'aime bien. Savez-vous ce que signifie le baudruchage ? Eh ben non, je m'en doutais. Eh ben il s'agit d'une technique ancienne pour assurer la fermeture d'un flacon et le rendre étanche. On entourait le col du flacon d'une membrane animale, du genre intestin de bœuf, vous voyez, bon, c'est pas très, mais enfin ça se voit pas, hein, franchement, humidifié, et qui, en séchant, assurait fermeture et préservation. On rehaussait le tout d'un fil d'or ou de soie, et le tour était joué. Bon, ça existe encore, hein, ne croyez pas. Non, ça existe encore. C'est utilisé pour certains flacons de Chanel numéro 5, un des must, ou parfois même chez Guerlain. Ce sont les baudrucheuses, ou les dames de table, c'est peut-être un peu plus élégant, quoique ça ne définit pas tellement la fonction, qui font cette subtile opération extrêmement traditionnelle et encore un petit peu préservée. Un dernier élément pour vous convaincre de lire ce dictionnaire amoureux, qui contient tous les ingrédients pour un parcours olfactif, il s'agit de l'histoire de Chalimard, le parfum créé par Jacques Guerlain en 1925 pour fêter le centenaire de cette maison. Il fait discrètement et directement référence à l'Inde et à l'amour entre le chat Jahan et sa jeune épouse disparue prématurément et qui nous vaudra le Taj Mahal. Parce que vous savez que le Taj Mahal a été construit en mémoire de cette femme merveilleuse et qui l'aimait d'un amour fou et qui est décédée brutalement. Et surtout les jardins Chalimard, puisque ce sont ces mêmes jardins qui abritèrent leurs amours. Donc Jacques Guerlain, il est fasciné par cette histoire et son parfum, présenté à l'exposition des arts décoratifs de 1925, obtiendra le premier prix et restera dans l'histoire du parfum comme un incontournable. Ah. Amis amoureux des parfums, faites-vous plaisir, à vous et à ceux que vous aimez. Excellente journée. Ooh, you make it bomb, make it bomb, make it fella. Gotta get it. Ooh, you make it bomb, makes my body.
Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline. À l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé. Hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent. Je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent. Dans ton futur, la vie est un jeu de cartes. Paris, un casino, je joue les rouges. Cœur, carreau. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline.